nouveaux accords. L'émission des découvertes musicales, à l'écoute des artistes locaux. Sur Studio Zef 91.1 et 91.7.
Je me sens petite et vulnérable, voire complètement instable. J'angoisse bien trop facilement. Je crois que j'ai pas le bon protocole. Un doute et tout dégringole. Je me sens comme une enfant. Je me sens petite et trop polie. J'ai la peur qui m'envahit quand je dois affronter les gens. Je sais que l'on profite de moi. Jamais j'élèverai la voix. Je souris en encaissant. Comme une proie, une petite biche inoffensive. Dans la jungle, j'aurais pas tenu un mois. Dès qu'on m'attaque, je me tétanise. Je crois bien que c'est marqué sur mon front. Quand on bouscule, je dis pardon. Et quand je me fais doubler à la caisse, je ne dis rien, c'est trop de stress. Chaque fois qu'on m'effleure, rien ne protège mon intérieur. Je me sens petite et trop fragile. Mes larmes ne tiennent qu'à un fil. Il suffit d'un mot blessant. Tout pour éviter le conflit. T'es méchante, restons amis. Je me dis que c'est pas important. Je dis non, je culpabilise. Refuser, ça n'est pas très courtois. Mon éducation m'a soumise. J'en ai marre d'être une enfant de cœur qui hoche la tête comme une princesse. Je veux reprendre les droits sur mon cœur, me blinder comme un CRS. Pas la peine de m'appeler, non, je vais pas décrocher. J'ai pas de temps pour toi. Maintenant je pense à moi. La prochaine fois que tu me pousses mon poing dans ta frimousse, la prochaine fois que tu me siffles, je te colle une grosse gifle. Et non, je vais pas descendre pour chercher ma commande. Tape-toi les 10 étages et fais-toi un claquage. Attends, il manque 10 balles. Je vais faire un scandale et foutre le feu chez toi et kidnapper ton chat. Je veux la peau dure, pas une peau qu'on habille. Elle est rugueuse, pas de souplis. Je veux la peau dure. Parce qu'à chaque fois qu'on m'effleure, rien ne protège mon intérieur.
Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle épisode de Nouveaux Accords, l'émission qui met à l'honneur des artistes de la région. À l'occasion des semaines spéciales Elle sur nos ondes, je ne pouvais rêver meilleure invitée que Tania Wiss. Bonjour.
Bonjour.
Vous venez d'écouter La Peau Dure, single présent sur son album, sur son premier EP, excusez-moi, À Poil.
C'est ça.
Alors pour commencer cet entretien, j'aimerais qu'on remonte dans le passé. Et est-ce que tu pourrais du coup nous expliquer comment la musique est entrée dans ta vie ?
Ouh. Tania est naquie dans le Loir-et-Cher à Blois. Je pense que j'ai toujours voulu faire de la musique, j'ai toujours voulu être chanteuse. Je pense qu'au départ ça a effrayé mes parents parce que l'idée n'a jamais bougé en fait. Et ça s'est précisé en projet professionnel où j'étais très déterminée. Je voulais aller au conservatoire de Tours dès 10 ans. En internat, mes parents, ils ont dit non. Ils ont dit, si t'as toujours la même idée à 14 ans, tu pourras y aller. À 14 ans, je suis arrivée presque avec un PowerPoint sur un plan de carrière. Et du coup, je suis allée à Tours au lycée Paul-Lucourrier. J'ai fait le conservatoire. Et à 17 ans, je suis directement allée à Paris dans une école chant, danse, théâtre. Enfin, l'idée ne m'a jamais quittée. Et pendant un certain temps, j'ai mis un peu la musique sur le côté passion. Parce qu'arrivée à Paris, je me suis rendu compte, vivre de sa musique, c'était aussi faire énormément de sacrifices sur l'aspect artistique. Et c'est un truc que j'étais pas prête à faire. Et du coup, je l'ai mis plus en côté passion. Et puis après, en fait, c'est revenu. J'ai eu un groupe qui m'a permis de créer, en fait, et de continuer dans le registre passion et pas dans le registre un peu événementiel que je voulais éviter. Voilà. Et après, les parodies, et voilà.
T'as commencé directement avec le chant ou c'était aussi plutôt l'aspect musique, instrumental ?
J'ai commencé tout de suite avec le chant. Mais alors, mon premier instrument, c'est la trompette.
D'accord.
Voilà, à 7 ans, dans ma classe de primaire, ma mère voulait que je fasse l'école de musique. Et alors moi, une deuxième école, c'était hors de question. Et puis, il y a eu une intervention, je crois, des CM2 dans la classe, des CE1, je pense, avec une fille qui jouait de la trompette. Et je suis rentrée, j'ai dit « Ok, maman, je veux faire de la trompette ». Et du coup, j'ai fait 7 ans de trompette. Je suis désolée pour tous les professeurs que j'ai eus, je suis extrêmement nulle. Encore aujourd'hui, je ne sais pas en jouer. Mais c'était mon objectif, c'était la trompette.
C'est un choix surprenant, mais
oui.
Pourquoi pas.
Mais j'adore cet instrument, c'est toujours mon instrument préféré.
Tu viens de le dire, donc tu as fait partie d'une formation de groupe avec Lyric Square.
C'est ça.
Qu'est-ce que cette expérience, elle t'a apporté et qu'est-ce que tu as gardé ou qu'est-ce que tu as un peu aussi déconstruit par rapport à aujourd'hui ?
Alors, cette expérience m'a apporté déjà le fait de travailler avec plusieurs sensibilités, de travailler de groupe. C'est pas facile aussi de gérer plusieurs personnalités, de créer aussi ensemble. Le fait que chacun puisse donner son avis, c'est hyper intéressant. C'est aussi une énergie folle sur scène de jouer ensemble, d'être connecté, et c'est très chouette comme ambiance. C'est vrai que par exemple, maintenant, je suis toute seule. Je regrette des fois le côté tournée où on était dans la voiture à chanter tous ensemble, et ça motive aussi. Mais de l'autre côté, ça peut aussi freiner, parce que quand on est 5 personnes, 5 personnalités, avec 5 ambitions différentes, il faut faire attention à ce que tout le monde ait sa place, que tout le monde puisse s'exprimer, et du coup, tu vas aussi plus lentement. Donc, y a un peu les deux côtés. Aujourd'hui, ça me manque, je dirais. Et en même temps, j'ai aussi l'impression que je peux maîtriser mon projet à 100%, et comme je suis très contrôle fric, ça me va bien.
Un retour dans un groupe, c'est quand même quelque chose que tu pourrais envisager, ou vraiment maintenant avoir ta propre identité, c'est peut-être trop important, ou t'aurais du mal à associer ton identité à une identité de groupe.
Je pense qu'aujourd'hui, j'adorerais retravailler avec des musiciens, mais avec ma propre identité et mon propre répertoire. Par contre, pour le plaisir, on va dire pour m'amuser à côté, je pourrais refaire un travail de groupe. Mais c'est vrai que c'est trop important pour moi de pouvoir m'exprimer à 100% et de ne pas être contraint par d'autres visions, d'autres énergies. Ouais.
C'est un groupe 100% féminin. La sororité, ça a toujours été important dans ta vie et dans ton parcours professionnel.
Je mentirais si je dis que ça a toujours été important. Je pense que c'est aussi la suite d'une longue déconstruction, d'un apprentissage. Et je pense que c'est pareil pour toutes. La suite aussi de plusieurs histoires d'amour. D'ailleurs, j'enlève le mot amour, pardon. Non, de plusieurs relations très difficiles. Et elle est arrivée avec le féminisme, elle est arrivée avec MeToo. Elle arrivait avec une prise de conscience sur ma propre histoire, le fait que j'ai vécu des violences conjugales et de m'en apercevoir et de rejoindre les manifestations MeToo, d'en parler avec d'autres femmes. J'ai pris conscience d'énormément de choses et je pense que c'est là que j'ai commencé vraiment à me déconstruire, à arrêter de dire « bah non, moi je traîne qu'avec les garçons ». Non, non, maintenant non, je traîne qu'avec les femmes et j'aime les femmes. Et c'est ce que je disais hier avec du coup les trois artistes, avec lesquels... on a fait la soirée, Blanche Esther et Gala Moreau et Saphir Lipopette. C'est que pour moi, l'avenir est dans la sororité. Et j'ai envie de m'entourer que de femmes, ou en tout cas de personnes bienveillantes et qui ont les mêmes valeurs que moi. Je trouve que c'est important.
C'est des choses maintenant que tu prends vraiment en compte dans tes décisions et dans ton parcours professionnel pour le futur.
Oui.
Avant de parler du coup de tout ton engagement et de tes chansons, t'es originaire de Vendôme et tu vis sur Paris. Quelque chose qui revient beaucoup dans cette émission avec les artistes avec lesquels je m'entretiens, c'est un peu la solidarité du coup entre artistes émergents et surtout sur le local. Est-ce que ça tu le vois aussi sur Paris qui est du coup la capitale, une scène beaucoup plus grande ?
Alors je le vois aussi parce qu'en fait finalement on se rend compte que les cercles sont assez petits, même si c'est sur Paris, en tout cas le milieu de la chanson française est assez petit, le milieu de l'humour c'est un autre cercle mais il est aussi assez petit et finalement on se connaît vite un peu tous les uns les autres, bon peut-être pas tous non plus, mais il y a peut-être, comment dire, je sais pas s'il y a une aussi forte solidarité, en tout cas j'en vois de la solidarité, je vois des artistes qui s'invitent les uns les autres sur leur plateau, donc il y a quand même une volonté de faire groupe et d'être ensemble.
T'as parlé de la trompette, aujourd'hui t'es accompagnée par ton ukulélé.
Oui.
Qu'est-ce qui t'a attiré dans cet instrument ?
Je pense que le fait qu'il soit petit, et en fait c'était pendant le confinement. En vrai, tout ça a vraiment commencé pendant le confinement pour tromper l'ennui. Et du coup, je me suis dit, je vais apprendre le ukulélé parce que justement, en fait, pendant le confinement, je me suis rendu compte, bah là, c'est difficile d'être sans mes musiciens. En plus, à ce moment-là, chacun a eu ses projets. C'est normal, 2 ans se sont écoulés de déménagement, de projet bébé, etc. Et je me suis dit, en fait, j'ai envie d'être indépendante. J'ai envie de pouvoir, mais rien qu'elle a une scène ouverte et m'accompagner. Et du coup, voilà, je me suis dit, je vais essayer un instrument à cordes. J'en avais jamais fait. Et donc, avec des tutos YouTube, j'ai appris le ukulélé.
C'était compliqué à apprendre ?
Alors, pour être honnête, non. Enfin, pas pour moi, parce que je pense que j'avais une formation musicale quand même derrière. Je faisais déjà du piano, j'avais fait de la trompette, j'avais un peu des connaissances de la musique. Donc peut-être que c'est peut-être plus dur si on part de zéro. Mais je trouve que c'est quand même un instrument qui... Oui, si tu vas pas faire des barrés ou des rythmes trop compliqués, j'ai l'impression que c'est quand même un peu l'instrument que tu peux emmener partout. Et si tu sais facilement faire 2-3 accords pour t'accompagner.
Moi, je trouve qu'il y a un peu un petit paradoxe avec l'utilisation de cet instrument, parce qu'il y a un peu le côté, voilà, l'instrument léger, petit, un peu humoristique. Je pense dans l'esprit populaire, on pense rapidement à Julien Doré sur la Nouvelle Star, etc. Et en même temps, le paradoxe, il est présent avec tes textes très engagés. Et du coup, cet instrument-là, cette vision un peu différente, ça l'était voulu aussi ?
Non, ça l'était pas voulu.
Pas voulu.
Non,
okay.
Ça, c'était pas vraiment voulu. C'était plutôt que je cherchais un instrument pour m'accompagner assez simple. C'est celui qui s'est imposé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, je me vois plus en mon ukulélé, quoi. Mais et d'ailleurs, pour mon anniversaire, j'ai reçu un ukulélé électrique. Donc là, je suis à fond dans le ukulélé, quoi. Là, j'en ai 3 à la maison. On est sur une fan de ukulélé maintenant.
Ça change quelque chose le fait qu'il soit électrique?
Oui.
Au niveau de pour performer, au niveau de l'écriture, etc.
Eh bien justement, oui. Donc je vais devoir apprendre à m'en servir. Parce que c'est un peu comme une guitare électrique, en fait, au niveau du son. Et du coup, le ting-ting-ting-ting-ting, ça ne fonctionne plus. Donc voilà, je vais devoir voir comment je fais avec ça.
Ça te pousse du coup à aller vers d'autres univers un peu plus style musical différent ?
Mais c'est un peu le but.
D'accord.
C'est le but aussi de pouvoir expérimenter un peu d'autres sonorités sur scène. Même si j'adore le ukulélé, je trouve ça super pratique. Mais là, on est en train de travailler sur un nouveau spectacle avec une metteuse en scène. Et du coup, on cherche aussi à expérimenter d'autres sonorités. Et donc, le ukulélé électrique en fera partie.
C'est pareil, chaque artiste a une méthode différente. Certains ont d'abord les mélodies, puis viennent les textes. D'abord les textes, ensuite les mélodies. Toi, tu travailles comment ?
Bordélique. c'est vraiment le mot. Alors, quand il y a quelque chose, une actualité qui m'énerve, ça peut très vite arriver. C'est voilà, une actualité qui me prend, je peux très vite avoir une envie d'écrire. Ça, c'était plutôt pour les parodies, par exemple, où je vais avoir une idée de parodie et puis ça va venir tout seul parce que je suis énervée par rapport à l'actualité et j'ai besoin de m'exprimer. Et certaines parodies, par contre, vont être beaucoup plus longues. Quand je dis long, ça peut être plusieurs mois où je repasse dessus, d'écriture. Trouver la bonne chanson aussi, c'est pas facile. Pour les compositions... Eh ben, c'est pareil. Des fois, j'ai la mélodie et les accords. Des fois, c'est l'inverse. J'ai pas de schéma.
Tu le parles, du coup, donc il y a toutes les parodies qu'on peut voir sur les réseaux sociaux où tu reprends des tubes cultes, donc par rapport à l'actualité. Le choix des chansons, tu le fais comment ? C'est des chansons que tu connais, que tu aimes déjà, que tu as envie de réécrire. Le fait que ça soit culte aussi, du coup, tu dis ça fonctionne avec la parodie.
Oui, en fait, ce qui fonctionne, c'est que les gens connaissent la chanson. Donc, c'est des chansons du répertoire assez... Oui, assez connue de la variété française. D'ailleurs, ça m'a valu des questions récemment parce que j'ai repris cette année-là, que je reprends en fait tous les ans de Claude François. Et je tiens à préciser que ce n'est absolument pas un hommage. Je ne fais pas d'hommage aux artistes. Ça peut arriver, mais j'en ai fait pour des artistes que j'aime, pas pour Claude François. Voilà, moi je reprends la chanson parce que je trouve que ça match avec le sujet que je veux aborder. Mais c'est vrai que je pense pas forcément à l'artiste. C'est un débat que je suis complètement ouverte à avoir. Mais c'est vrai que dans la variété française, malheureusement, dans les chansons les plus connues, ben c'est pas les personnes les moins problématiques qui les chantent. Donc je sais pas, c'est une question aussi. Moi, je pense que, justement, en reprenant la chanson et en ironisant dessus et en faisant quelque chose de très parodique, j'ai pas l'impression de rendre hommage, mais je suis désolée si ça heurte en tout cas certaines personnes.
Dans tes chansons, donc là par contre, tes propres textes, tu partages des expériences qui sont très universelles et en même temps très personnelles. Tu parles de la contraception, des violences faites aux femmes. Tu parles de ton intolérance au gluten. À quel moment ces expériences-là, ça devient des chansons pour toi, en fait ?
En fait, c'est toujours un besoin de s'exprimer. En fait, que ce soit au niveau de l'actualité ou au niveau de moi-même, quelque chose qui me dérange, j'ai pas beaucoup de tabous. Je suis quelqu'un qui s'exprime de manière très libre. Et en plus, quand j'ai du coup un tabou ou quelque chose qui me gêne, je suis plutôt du genre à l'exposer pour que ça arrête de me gêner. Donc par exemple mes poils, moi ça m'aide en fait de parler de mes poils sur scène. Mon intérieur sur gluten, ça m'aide d'en rigoler sur scène aussi et de pas le vivre comme une frustration, même si je le vis comme une frustration. Il y a rien à faire pour ça. Mais ça, je pense que ça m'aide et en même temps ça aide aussi d'autres personnes qui le vivent aussi. Ça permet à moi de me sentir moins seule peut-être et à d'autres de se sentir moins seule. Donc je trouve ça chouette.
Il y a aucun sujet où du coup tu te dis là je peux me poser des limites. J'ai pas forcément envie de l'utiliser dans une chanson.
Si
quand même.
Je pense ma famille. Ma famille, parce que j'aurais peur de les blesser. Donc là, ce serait ma limite.
Ok. Je te propose qu'on fasse déjà une petite pause et qu'on écoute du coup ton single Les 4 saisons. Et on revient juste après pour parler plus en détail de ton EP et de la création.
Ça marche.
Mon chéri, tu te poses des questions. C'est comment les menstruations sur mon appli de méditation. Ça dit que c'est comme les 4 saisons. Sous le soleil de l'été, je sens mon corps se préparer. J'ai des fruits mûrs à féconder qui me donnent envie de t'aimer. Mais déjà, l'automne pointe à son nez. Des petits trucs commencent à me gonfler. Tu respires fort et te mouches souvent, étends le lit que t'es collant. Mon amour, ne m'en veux pas. Je ne t'aime que 2 semaines par mois. C'est chimique, c'est biologique. Je t'aime au rythme de mon cycle. J'ai des boutons qui ont poussé. Y'a plus de place dans mon cœur. T'as pas passé l'aspirateur. Mon amour, ne m'en veux pas. Je peux pas te saquer 2 semaines par mois. C'est chimique, c'est biologique. Questionne ma libido. Le printemps fait son apparition. Dans mon vagin, une floraison. Je me sens toute belle et toute menue. Tu fais la gueule? Je te sens perdue. Mon amour, ne m'en veux pas. Mon amour, je ne t'aime que 2 semaines par mois. Mon amour, c'est chimique.
On vient donc d'écouter les 4 saisons, titre présent, on l'a dit, sur ton EP À Poil, disponible sur toutes les plateformes de streaming. T'es une artiste engagée dans tes textes et dans la vie. À quel moment t'as décidé de lier du coup ton engagement à ta passion et à ta profession ?
Alors, je dirais que le féminisme, ça fait un moment qu'il est présent. Même avec Lyric Square, il y avait quand même quelques chansons qui étaient déjà dans cette lignée-là. On avait fait une reprise de l'hymne des femmes, on avait la chanson La fille est belle. Et après, c'est vraiment pendant le confinement, j'ai commencé à faire des parodies sur le Covid, jusqu'à là, rien de très engagé. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à faire des chansons sur la politique et je crois que j'y ai pris goût, tout simplement, de m'exprimer. J'ai pris goût d'exprimer mon avis et petit à petit, j'ai de plus en plus osé aussi exprimer mes opinions, me politiser. Et, Et maintenant, je vois pas comment je pourrais décorréler mes chansons de mon militantisme.
Si aussi toute la période MeToo, toutes les affaires qui ont pu mettre du coup en valeur les femmes, tout ça, ça s'était pas passé. Tu penses que t'aurais quand même été une artiste engagée, ou vraiment le contexte politique, le contexte social, a vraiment fait que tu t'es dirigée vers cette voie?
Je sais pas. Enfin, pour être honnête, je sais pas. Après, j'ai toujours été quelqu'un d'engagé. J'ai toujours eu ces convictions-là, pas aussi fortes, notamment parce que j'étais pas assez déconstruite aussi pour les avoir. J'ai toujours été engagée pour l'écologie, les discriminations sociales. C'est toujours quelque chose qui m'a touchée et j'étais aussi élevée comme ça. Mais je sais pas. S'il y avait pas eu MeToo, est-ce que j'aurais pris conscience? Est-ce que j'aurais mis les mots? Je sais pas.
J'ai vu plusieurs plateaux que t'as fait sur l'émission Laisse-moi rire. Mmh. À chaque fois, tu portes des t-shirts où tu fais du coup des petites références à des entrepreneuriats, toujours dans l'engagement. C'est important aussi de continuer à aller au-delà des chansons, aller voilà, sur les collaborations, sur ce que tu mets en avant.
Oui, oui, visibilisons à fond les femmes et les personnes minorisées, visibilisons. Moi, je pense que c'est super important en fait et même... Mais j'encourage toutes les personnes qui m'écoutent, écouter des femmes, écouter des personnes queer, écouter des personnes racisées, visibilisez-les. Et surtout quand on est une femme cis comme moi, blanche, je pense que j'ai énormément de privilèges déjà et c'est aussi mon rôle de... Enfin, pas mon rôle, je voudrais pas que ça soit mal interprété, mais je veux dire, je me sens aussi une responsabilité en fait de visibiliser des personnes qui en ont moins que moi.
Est-ce que, alors pas forcément une crainte, mais on va utiliser ce mot-là, de dire qu'avec plus de visibilité que t'as, qu'après on essaie de te contrôler...
Ah, ça me fait peur.
Ouais.
Ça me fait super flipper. Mais justement, là, je pense que j'en suis à un moment où je sens que des gens s'approchent de moi. Et je suis très, très méfiante, très prudente. Je pense que c'est l'expérience aussi qui fait que maintenant, je fais attention. Mais oui, ça me fait super peur. J'adore la liberté. Signer un contrat, pour moi, c'est terrible. Des fois, je signe des contrats sur, pendant 6 mois et je me dis, mais déjà demain, c'est bien. Enfin, la projection me fait peur. Et oui, ça me fait super peur de dépendre d'autres gens, de plus être libre. Donc là, il va falloir que je deal avec moi-même. Là, y a un petit travail à faire là-dessus.
Ouais, c'est ça. Parce que comment on fait pour... Y a cette envie, forcément, de gagner de la visibilité, ce qui est normal, mais en même temps, garder sa liberté. Oui. Ce futur, tu le vois un petit peu comment?
Dans l'idéal, dans mon monde idéal, ce futur, il est entouré de personnes qui ont les mêmes convictions que moi, qui sont dans une bienveillance, dans une douceur. Et j'ai pas envie d'évoluer, parce que le milieu de la musique et de l'humour d'ailleurs, le milieu de la scène, j'ai envie de dire même la société tout court, elle est dans une énergie très sous la domination patriarcale. Et moi, j'ai pas envie de vivre comme ça. J'ai pas envie qu'il y ait des rapports de force. J'ai pas envie qu'il y ait des rapports de manipulation avec les gens avec qui je travaille. Je veux juste qu'il y ait de la bienveillance, de la sincérité, de l'honnêteté, qu'on s'écoute. Et moi, c'est dans ce climat-là que j'ai envie d'évoluer, en tout cas. Et si ça m'amène pas très loin, mais c'est pas grave. Moi, j'ai envie d'aller là où je suis bien.
Ton concert-spectacle avec lequel tu es en tournée, donc s'intitule Tania se radicalise. Il signifie quoi pour toi le mot radicalisation?
Ah, c'est intéressant. Le mot radicalisation, alors à la base, c'est évidemment humoristique quand je l'utilise, parce qu'on parle beaucoup de féminisme radical et ça me fait vraiment rigoler parce que je vois, qu'est-ce qui est radical dans le fait de faire des collages sur les murs, quoi? C'est quand même complètement fou.
Oui.
Donc à la base, je l'utilise vraiment dans un sens humoristique et en même temps. Je pense qu'il faut aussi une certaine... Alors, je mets des gros guillemets, là, on le voit pas, parce qu'on me voit pas, mais sur le mot radicalisation, parce qu'en fait, à un moment donné aussi, il faut s'imposer, je pense. On peut plus se contenter d'avoir un discours un peu polissé. Il y a des choses qui vont pas, il faut le dire, il faut arrêter de prendre les gens par la main en disant voilà, regardez, il y a des minorités qui souffrent, mais non, en fait à un moment donné, ça fait trop longtemps que ces personnes souffrent, ça fait trop longtemps que ces personnes sont dominées, et je pense qu'il faut il faut plus cacher notre colère. Moi c'est plutôt ça, c'est sur la colère que j'aime bien travailler. On est en colère, on a le droit de l'être, elle est légitime et on a le droit de l'exprimer. Et on n'est pas obligé de prendre les personnes par la main pour leur expliquer avec bienveillance. Alors ça fonctionne toujours mieux avec bienveillance, et ça je l'entends tout à fait. Mais c'est peut-être pas aux personnes qui sont les plus impactées par le sujet de le faire, parce qu'elles sont en colère et elles ont le droit de l'être. Donc peut-être que, messieurs les hommes cis, déconstruits qui m'entendaient, si vous pouviez prendre les autres hommes cis par la main et les emmener sur le chemin, ça serait chouette.
dans ce que tu le dis, il y a quand même du coup un peu la connotation négative du moralisation. C'est des reproches qui t'ont, toi, été faits ?
Non, parce que je suis une femme blanche cis, et du coup, j'ai le droit d'utiliser ce mot sans problème. Et j'en ai conscience, c'est un privilège. Je pense qu'une femme racisée ou une femme trans qui utiliserait le même nom de spectacle ne serait pas du tout perçue pareil. Moi, j'ai une tête de petit bébé mignon, je le sais. Hein. Enfin, tu vois, je suis assez consciente de ce que je dégage aussi. Et c'est pour ça que je peux l'utiliser sans problème et que ça... Que, tu vois, ça peut intriguer, gratter un peu, mais ça gêne pas.
Oui. Les gens comprennent le côté directement satirique, humoristique, tu penses plus ?
Ça dépend où. Ça dépend où. J'ai déjà eu des cas où les gens n'ont pas rigolé au premier refrain et où l'ont pris un peu au premier degré. Et même, alors moi, là, c'est horrible parce que sur scène, je suis en mode alors attendez, je vois qu'on se comprend pas. Et j'ai presque envie de faire un clin d'œil en disant c'est une blague. Enfin, c'est pas une. Enfin, je veux dire, c'est du second degré. Ouais. Il faut vous détendre. Je vais pas faire une manif tout de suite, quoi.
T'as déjà eu, ouais, justement, du coup, des réactions plus négatives sur de choses, peut-être plutôt à tes débuts, du coup, quand les gens savaient pas trop à quoi s'attendre, quand on allait te voir.
Tu veux dire en direct,
en direct.
Non, parce que sur les réseaux.
Ouais, bah, c'était la prochaine question aussi, voilà, vu que t'es sur les réseaux, comment on se protège de toute la haine qu'il y a sur les réseaux, surtout quand on a un discours aussi important que tu portes.
Eh ben, on se détache. On se détache beaucoup, on s'entoure. Moi, je sais que j'ai mes amis et ma famille, c'est des gens qui sont pas du tout sur les réseaux. J'ai beaucoup d'amis qui ont même pas Instagram. Donc ça me protège aussi beaucoup parce que quand c'est trop, je coupe et puis je retourne dans mon cocon. Après, il faut prendre beaucoup de distance. Au départ, t'as envie de répondre aux commentaires.
Ouais.
Surtout pas faire. Ce que je déconseille, ça sert à rien. Je pense qu'après avoir fait après avoir mis ma vidéo en ligne, moi je considère que j'ai fait ma part de travail. Et je trouve ça aussi chouette en fait de faire quelque chose qui déclenche des réactions et qui crée un débat dans les commentaires. En fait, c'est toujours un lieu de parole. Et c'est vrai que comme on se polarise beaucoup, il n'y a plus tant d'espace de rencontre et de parole. Alors même si, évidemment, des fois, les échanges ne sont pas bienveillants, ils sont même plutôt violents, ça reste un lieu où peut-être il y a plusieurs personnes avec plusieurs opinions qui vont s'exprimer. Donc je trouve ça chouette d'ouvrir ça. Après, évidemment, il n'y a aucune excuse aux messages que je reçois, menaces de viol, de mort, etc. Ça, c'était très compliqué, notamment aux dernières législatives, où j'ai une grosse, grosse vague de harcèlement. Et là, ça a commencé à m'atteindre. D'habitude, honnêtement, je lis même pas les commentaires, je fais pas attention. D'ailleurs, arrêtez de m'en écrire, parce que je les lis pas, donc vous perdez un peu votre énergie. Mais là, oui, là, c'était non-stop. Et c'est vrai que là, j'ai dû tout mettre tous les filtres, harcèlement et tout, et m'éloigner de mon téléphone, tout simplement.
Ça t'angoisse aussi, du coup, le fait que, déjà, il va y avoir les présidentielles qui vont arriver, on va savoir que c'est une grosse période. Mais pareil pour le futur, plus de visibilité. Du coup, ça, c'est des choses qui t'angoissent un petit peu.
Ah oui, complètement. Je suis très lucide sur l'avenir aussi. Ils sont pas bons, même si je vais continuer à militer jusqu'au bout. Et je pense que tous les gens de mon bord ou qui pensent comme moi, on va continuer. Même peut-être après, s'il doit y avoir un dénouement sombre à cette élection. Mais oui, j'ai peur, mais en fait, j'ai peur parce que je suis lucide, parce que je vois ce qui se passe aux États-Unis, parce que, enfin, et encore, j'ai peur, mais, enfin, je ne serai pas la première impactée, encore une fois, en tant que femme cis blanche. Donc, j'ai encore plus peur pour mes amis, pour mes adelfes, mais je pense qu'en fait, je serais folle de pas être terrorisée, enfin, avec tout ce qui se passe, avec la violence qui émerge, je pense qu'on devrait tous avoir peur. Mais c'est dur en même temps parce que j'ai beaucoup d'amis qui se détachent de la politique et je les comprends aussi parce que c'est tellement intense et violent qu'on a aussi envie de
oui,
couper,
de bloquer.
Bloquer. Je comprends tout à fait et je juge surtout pas. Mais oui, on est en alerte là. Alerte rouge.
Je le vois dans ton discours, enfin, t'es tout aussi engagée dans tes chansons que dans la vie.
Oui.
La Tania Wiss qu'on retrouve sur scène, l'artiste, c'est la vraie Tania Wiss. Est-ce qu'il y a quand même une histoire un peu de personnage, de différencier l'artiste de qui tu es ?
Oui.
Ouais.
On n'est jamais vraiment soi-même sur scène ni sur les réseaux. Il y a plein de choses que je garde pour moi. Par exemple, je ne partage jamais mon quotidien et mon intimité sur les réseaux. Je n'ai pas envie de le faire. J'ai envie que ça reste un peu professionnel. Bon, je partage mon chat, mais parce que... quelle star. En même temps, il est trop beau. Mais sinon, oui, je fais attention, je me préserve. Je livre beaucoup de moi sur scène, mais c'est du moi qui est aussi enrobé, qui est contrôlé. Évidemment, mes chansons, tout n'est pas 100% vrai. Je pense notamment à La Poilue. Alors, il m'arrive de m'épiler une jambe sur deux, parce que ça... Bref, j'ai vraiment un truc avec les poils, ça c'est vrai. Mais par exemple, dans la chanson, je dis que je m'épile la pépette entièrement. C'est pas vrai. Voilà, si vous voulez vraiment tout savoir, ce n'est pas vrai. Voilà, il y a des choses comme ça qui sont pas vraies, qui sont exagérées, parce que c'est du domaine artistique. Mais sinon, c'est la même personne. Enfin, je veux dire, c'est pas un rôle que je fais sur scène d'être engagée et féministe.
D'avoir cette identité-là sur scène, ça t'a permis aussi de reprendre le contrôle sur qui tu es et sur ce que la société impose justement aux femmes.
Ce qui est marrant, c'est que ça me permet de me rendre compte des choses sur moi. Parce que moi, jusque-là, j'étais chanteuse. Et puis les gens ont commencé à rigoler. Et là, je me suis dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Et puis du coup, j'ai l'impression que maintenant, je suis drôle. Donc déjà, je suis en train d'accepter ça. Le fait que peut-être que je suis drôle. Donc c'est marrant parce que du coup, la scène te renvoie d'autres choses sur toi. Donc tu en apprends sur ta personnalité aussi. Je trouve ça drôle. Bah, voilà, c'est le cas de le dire.
L'humour, du coup, ça n'a pas toujours fait partie de ta vie ou pas autant? C'est quelque chose que tu as appris à travailler?
Mais, je suis encore en train de le faire, je pense. Alors j'ai toujours aimé amuser la galerie. Ça, c'est sûr.
Ce côté autodérision.
Oui, j'ai toujours eu ça. D'ailleurs, je suis à moitié suisse. Et en Suisse, suisse-allemande notamment, il y a une culture de l'humour noir. Donc, j'ai toujours eu un humour assez acide, noir. Et puis, c'est venu avec les parodies. Puis, quand j'ai commencé à faire des parodies sur scène et des chansons, les gens ont commencé à rigoler. Je me suis dit, ah tiens. Et puis, je pense que c'est... Justement, je pense que c'est quelque chose qu'il faut maintenant que je travaille. Parce que j'ai un naturel sur scène qui fait rigoler les gens. Mais c'est pas forcément très contrôlé. Enfin, je suis très dans l'improvisation pour l'instant.
Okay.
Évidemment, je prépare un peu mes transitions, mais voilà, c'est très naturel. Et je pense que le naturel, il se travaille pour le garder. Parce que par exemple, si tu me demandes de répéter 10 fois la même phrase, je suis pas sûre de réussir, tu vois, à avoir tout le temps le bon ton pour faire rire les gens. Donc c'est quelque chose que je vais travailler là dans un deuxième spectacle.
Oui, parce que vraiment, Tania Srikali, c'est un concert, mais il y a aussi tout l'aspect spectacle. Par exemple, le théâtre, des choses comme ça, c'est aussi des choses qui peuvent t'intéresser dans ta carrière d'artiste, où tu restes sur la chanson.
Oui, carrément. En fait, j'ai fait une école chant, danse, théâtre. Après, j'ai fait un conservatoire de théâtre aussi. J'ai fait une fac, une maîtrise en théâtre. Donc oui, la scène, de manière générale, m'a toujours intéressée. Et oui, moi, je suis ravie de pouvoir explorer encore d'autres choses. Et de plus en plus, j'arrive à me laisser porter aussi, à me dire, voilà, ce qui se présente à moi, je vais aussi faire des essais. Par exemple, en septembre, une super femme m'a contactée sur les réseaux pour me proposer de faire une petite tournée de comedy club, ce que je n'avais jamais fait. Je me suis dit, allez, j'essaye. Et puis finalement, j'ai adoré ça. Et aujourd'hui, du coup, j'aimerais faire plus de plateaux de comedy club parce que je trouve ça chouette et je trouve que certaines de mes chansons s'y prêtent. Donc voilà, c'est que des expériences, en fait.
Est-ce que du coup aussi ce côté humoristique, il te permet d'aborder ces sujets forts avec peut-être plus de liberté ?
Oui, bah carrément, parce que je pense que en chanson, on peut dire beaucoup de choses en fait. On peut faire passer beaucoup de messages et c'est peut-être mieux, peut-être que les gens le prennent un peu mieux, je sais pas, il y a peut-être la chanson permet peut-être un petit détachement ou je sais pas.
Dans l'écriture, comment est-ce que tu balances l'équilibre entre du coup vouloir faire rire, créer aussi la prise de conscience ou un peu aussi le malaise chez le public?
Bonne question. Je sais pas comment je fais ça. Avant tout, c'est vraiment, j'ai un truc à dire en fait. C'est plutôt ça. Et puis je vais faire un peu un squelette de chanson. Et après, je vais retravailler les phrases pour qu'elles soient un peu plus absurdes ou un peu plus drôles. Ou tu vois, ou je vais rajouter des punchlines en fait. Okay. Ce que je dis, c'est punchline, c'est un truc un peu impactant qui tout de suite va te faire un petit choc au cerveau en disant « Attends, elle a pas dit ça » ou tu vois, où il y a un truc un peu... ou une comparaison marrante. Par exemple, tout bête, hein, Donald Trump, il a les couleurs cheveux pommes de terre. Et ça fait rigoler parce que tout d'un coup, le truc est un peu absurde.
On a parlé du coup du public pas bienveillant tout à l'heure. Est-ce que t'as déjà reçu des messages de soutien, de merci en fait de parler de ces sujets, de les mettre en avant, merci de le dire avec ce ton-là?
Énormément. Ouais, ça fait du bien, c'est chouette. Surtout des femmes qui m'envoient des messages privés. Et en fait, souvent c'est marrant parce que c'est souvent des DM, parce que les gens en fait... je veux dire, c'est vrai que moi je commande pas beaucoup des vidéos non plus. À part quand j'ai vraiment adoré, je mets super ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que c'est plus en DM que je vais recevoir des messages qui me disent vraiment merci d'évoquer ces sujets-là, ça me fait du bien. Ça, c'est trop bien, quoi. De faire du bien aux gens, c'est trop super.
T'as un public aussi masculin quand t'es sur scène?
Oui, mais on pourrait penser que ça ne les intéresserait pas, mais pas du tout, au contraire. Franchement, même des fois, c'est... Bon, 50-50, je suis peut-être un peu... Mais vrai, on est bien sur du 40-60. Non, il y a un public masculin et c'est très chouette parce que même ça crée aussi des débats à la fin des concerts. Et je trouve ça trop bien de... Bon, en fait, je trouve ça trop chouette de juste libérer la parole et d'inciter au débat parce que c'est comme ça, en fait, qu'on va avancer. C'est aussi en se parlant et en débattant. Et c'est vrai que des fois, on n'a plus l'énergie, en fait, de créer ce truc de débat. Et si une chanson peut permettre une réflexion et une ouverture d'esprit pour... Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de copines qui ont parlé après avec leur chérie de leur cycle menstruel, par exemple, où ça peut faire prendre conscience aux femmes aussi. Ah, mais c'est pour ça que je me sens comme ça avant mes règles. Mais c'est trop bien. Enfin, moi, j'ai mis du temps à découvrir ce que c'est que les SPM. Et du coup, je me dis si ça peut aider des femmes, si ça peut aider des couples à avoir des discussions sur ça, si ça peut aider des groupes d'amis aussi à en parler et qu'on avance comme ça, c'est trop bien.
Concernant aussi ton futur, tu veux rester sur cette même lignée avec des textes qui abordent des sujets qu'on n'entend pas forcément partout. Est-ce que tu veux toujours garder cet aspect humoristique, le ukulélé, ou est-ce que tu aimerais aussi partir dans d'autres choses? Je pense notamment à des covers que j'ai pu voir sur ta chaîne YouTube avec d'autres artistes. Je pense aussi à la chanson Caméléon. On sent toujours que le texte est engagé, il y a un sujet derrière, mais il y a un aspect plus doux, moins humoristique, ou en tout cas moins assumé, on va dire.
Ouais, en fait, mon problème, c'est la liberté. C'est que j'ai pas envie de m'enfermer dans quelque chose, et j'ai l'impression quand même que je comprends en même temps qu'il faut une identité claire et qu'il faut une DA, je l'entends, mais c'est vrai que m'enfermer, moi, ça me fait flipper. En fait, j'ai pas envie de m'empêcher d'écrire autre chose. Si un jour je suis pas dans le mood d'écrire une chanson humoristique, j'ai envie de l'écrire quand même. Et puis les gens dealeront avec eux-mêmes si ça les gêne, parce que ouais, voilà, là j'ai écrit une chanson sur le cancer de mon grand-père, par exemple. Je l'ai juste sorti sur YouTube comme ça, et c'est pas grave si ça intéresse moins, ou c'est pas grave si ça fait bizarre, moi j'en ai besoin. J'ai toujours écrit sur les choses qui m'arrivaient, il y a des choses dont j'arrive pas à rigoler, et voilà, et j'ai pas envie d'en faire des trucs drôles, quoi.
Est-ce qu'il y a une dimension un petit peu, on va dire, étrange de lier tout cet aspect thérapeutique qui est l'écriture à ta profession? En fait, comment ça se passe? Parce que normalement, l'écriture, voilà, toutes les personnes qui peuvent tenir un journal maintenant, c'est très personnel, c'est quelque chose dont on ne parle pas forcément aux autres. Comment, toi, est-ce que tu vis le fait de partager tout ça sur scène?
Bien. Oui, bien. Je te dis, je pense que je n'ai pas beaucoup de tabous. Mais c'est quelque chose que je me suis rendu compte au fur et à mesure. Parce que, voilà, anecdote, une fois après un concert, donc j'ai une chanson qui s'appelle La Poilue, où je parle de mon rapport au poil. Eh bien, il y a deux femmes qui sont venues me voir en me disant « Ah, c'est chouette que t'en parles, parce que c'est vrai que nous aussi, tu vois, c'est compliqué, l'épilation et tout. » Et moi, je leur dis de manière très naturelle « Bon, par contre, tout n'est pas vrai, hein, je m'épile pas entièrement la chatte. » Et je vois leurs yeux se baisser hyper gênés. Et là, je me dis « Mais qu'est-ce que j'ai pas dit ?» Et en fait, je pense que j'ai vraiment un naturel où j'ai pas de problème à parler de ça. Pour moi, c'est pas tabou. C'est peut-être aussi comme ça que j'ai été élevée, je sais pas. Mais du coup, c'est là, en fait, c'est en voyant le public que je prends conscience que c'est des tabous. Okay. En voyant, par exemple, même en Haute-Savoie, la dernière fois, je voyais des femmes lever les yeux au ciel, c'est gêné ou pas à l'aise, quoi. Et moi, je suis là en mode, mais c'est les poils, c'est les règles. Enfin, je veux dire, c'est la vie, quoi. Et en fait, je mets le doigt sur des tabous un peu malgré moi, parce que pour moi, c'est pas des tabous, en fait. C'est peut-être des trucs qui m'embêtent, comme les poils, mais c'est pas un tabou, c'est juste un petit complexe, quoi.
Il y a justement des sujets un petit peu tabous vus par la société que t'aimerais bien aborder dans tes prochains titres.
Oui, là j'ai écrit une chanson récemment sur l'utilisation du corps des femmes dans les chansons de variété française, où j'inverse l'écriture en parlant du corps des hommes, et c'est chouette parce que ça déclenche un malaise, et je mets le doigt sur un gros sujet, en fait, où voilà, les auteurs, en fait, se permettent de parler de notre corps dans beaucoup de chansons, et ils inversent en tout cas de manière aussi lubrique et dégradante, n'existe pas, en fait, tout simplement. Là, j'ai une chanson en préparation sur les performative male aussi. Donc les hommes qui se font passer pour militants féministes, mais pour, en fait, draguer des femmes. Voilà, il y a plein de sujets de société aussi que j'aimerais aborder comme ça. fait, j'ai envie de parler de tout, de
y a
tout ce qui
de
me...
choses à dire.
Ouais, c'est ça, il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à faire découvrir aussi, parce que tu te rends compte que, bah, par exemple, les performative mail, c'est quelque chose qui est quand même vachement connu du milieu féministe militant.
Oui.
Mais je suis pas sûre que tout le monde sache ce que c'est, en fait. Donc il y a des mots comme ça aussi. Par exemple, même le mot Adelphes. C'est un mot que tu vois qui est bien d'utiliser sur scène parce qu'il faut le faire connaître aussi. Il y a du vocabulaire. Homme cis, par exemple, souvent je l'explique ce que c'est sur scène parce que tout le monde ne sait pas encore ce que c'est qu'un homme cis et c'est important de faire passer ces mots dans le vocabulaire.
Est-ce que tu le vois un peu aussi comme quelque chose d'éducatif, donc voilà, pour ton public plutôt adulte, jeune adulte, mais est-ce que même avec des textes choquants, ça pourrait aussi aller vers un public un petit peu plus jeune?
Mais on m'a proposé, on m'en a parlé, de dire que je pourrais faire ça dans les lycées pour aborder même la contraception, les menstruations, tout ça. Moi, je suis carrément chaude. Contactez-moi, je suis carrément chaude. Je trouve que c'est hyper important. Et si ça peut créer des discussions à 15, 16, 17 ans, mais go, en fait, c'est le moment. avant que ça devienne des gros masculins. Non, je rigole. Ils ne deviendront pas tous des gros masculins, mais ce que je veux dire, c'est que c'est le moment de déconstruire.
Ok. On arrive sur la fin de cette interview. Pour finir, j'aime bien poser des petites questions, un petit peu, on va dire, flash, pour connaître tes goûts musicaux. La première, ça va être le titre qui a construit ton identité artistique.
Ouf, c'est dur ce que tu... Waouh. Alors, c'est pas une chanson drôle, mais Je suis grande de Linda Lemay, c'est une chanson qui me bouleverse et dans laquelle je me suis reconnue déjà très petite. Et c'est une chanson où elle parle, en fait, de la femme qui doit très se conditionner à être polie, à être douce, docile. Du coup, c'est quelque chose qui me parle énormément.
On est sur, du coup, les semaines spéciales Elle sur nos ondes. J'aimerais bien que tu nous partages une artiste que tu admires justement pour son engagement féministe.
Guidré ?
Tu peux expliquer pourquoi, qu'est-ce qui te
plaît ? Ah bah,
Guidré,
moi j'adore son humour, je suis complètement... à chaque fois qu'elle sort quelque chose à la radio, je suis totalement admirative. Elle a une écriture incroyable. Il y a Louise Adena aussi que j'aime beaucoup. Je sais pas si tu connais. Peut-être plus une influence sur Paris. Ah, celle qui a fait la première partie de Guidré. Hélène Piris aussi, qui est géniale. Ah, c'est dur là, comme ça, de dire plein de noms et tout. J'ai envie de dire toutes mes copines, mais ça serait pas... une rappeuse qui s'appelle Sopical aussi, qui est une copine à moi.
Ça fait du bien de voir, justement, dans cette sphère culturelle artistique, que l'engagement devient de plus en plus important.
Ouais. Oui, parce que, enfin, pour moi, la sororité, c'est l'avenir, quoi. Je suis désolée, je me répète, mais parce que je me sens trop bien avec ça et j'ai envie de le faire découvrir à toutes les femmes qui l'ont pas trouvé, parce que, en fait, j'ai envie de dire, mais les meufs, enfin, vraiment, vous faites niquer. Et je vous jure, mais traîner avec des femmes, aimer les femmes, enfin, regroupons-nous, mais c'est incroyable ce que la sororité peut faire et la bienveillance qu'elle peut apporter dans nos vies, quoi. Enfin,
okay. Oui. Pour venir sur la musique, quel est le dernier titre que tu as ajouté à ta playlist ?
Je peux prendre mon téléphone.
Prendre le téléphone qui est juste
à côté.
J'ai envie
de me dire, ah là là. Attends. Eh bien, c'est À poil de Guidré. Et J'attends l'été d'un ami qui s'appelle Paul Pechnard, voilà, qui vient de sortir son album.
Tu as cité le titre À poil, du coup, de Guidré. C'est en référence au titre de ton album.
Mais justement, en fait, c'est pour ça que je suis allée l'écouter. Je me suis dit, ah, mais parce que je n'avais pas vu avant.
Ok.
Et voilà, c'est pour ça que je suis allée l'écouter.
Donc, très belle coïncidence.
Ouais, très belle coïncidence. Coucou Guidré, si tu m'écoutes, je rigole.
On pourra lui envoyer un petit DM pour partager le moment du podcast. Et du coup, la dernière, donc ça va être ton titre préféré sur ton album et pourquoi ?
Ah, c'est dur ! Ah non, c'est trop dur. Bah, j'ai quand même une grande affection pour Je me radicalise parce qu'il s'est passé quelque chose d'assez magique avec cette chanson. Je pense que c'est la première fois que, du coup, c'est ma composition qui a... eu de la visibilité et pas une parodie, parce que ouais. C'est pas pareil, les parodies il y a quand même moins d'attachement, j'ai pas fait la musique, enfin tu vois, il y a un truc où je suis beaucoup plus détachée du titre, donc je dirais il y a Je me radicalise et La peau dure, c'est elle est plus intime, mais justement j'aime bien parce que c'est un humour qui est peut-être moins exagéré, enfin moins évident, mais elle me parle bien.
Okay.
Voilà.
Et ben, merci beaucoup, c'est déjà la fin, ça passe très très vite. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation et pour ta participation à l'émission.
Et bien, avec plaisir.
On le rappelle que ton album À poil, il est disponible sur toutes les plateformes de streaming.
Oui.
Tu es en tournée avec ton spectacle Tania se radicalise. Oui. Tu as des dates de concert à annoncer.
Oui. Oui. Alors, c'est Tania Vis se radicalise.
Tania Vis, pardon, excuse-moi.
Pas de souci. Et c'est le 2 mai à la Ruche en Seine à Orléans. enfin pour la région centre en tout cas.
Pour la région centre, voilà.
Mais moi, j'ai à cœur en plus de vraiment me reconnecter aussi avec la région centre. Enfin, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et du coup, bah, contactez-moi en fait, si vous voulez que je vienne en région centre.
Quand on enregistre cette émission, c'est le lendemain de ton concert du coup sur Tours. Comment ça s'est passé? Comment était le public tourangeau?
Eh bien, ça s'est très bien passé. J'adore l'endroit parce que le Petit Rex Café, c'est un lieu que j'affectionne particulièrement. Pour tout vous dire, je connais les personnes qui l'ont monté. Ce sont des amis de ma sœur. Et non, c'était très chouette. J'étais très contente de partager la scène avec d'autres femmes, en fait. Toujours pareil, je pense, trouve que la sororité d'Adèle Fidé, ça donne une force incroyable. Et ouais, il était chouette, le public tourangeau.
Bah, moi, je ne peux que conseiller à nos auditeurs d'aller voir tes parodies sur les réseaux sociaux et d'aller écouter ton album. Quant à moi, l'émission, elle est retrouvée en podcast sur le site de Studio Zef. On se quitte en musique avec ton titre « Je me radicalise ». Salut tout le monde.
Comme une maîtresse de maternelle, articulée pour que tu comprennes. Si tu savais, comme j'ai la flemme de t'éduquer pour la millième fois.
Alors écoute bien.
Je suis pas ta mère, moi. Ouin-ouin fait l'enfant roi. Avant de me traiter de sorcière, viens on compare nos salaires. Mec blanc, si c'est hétéro, ne partage pas son gâteau.
Non,
se complète dans ses privilèges depuis l'époque d'Adam et Ève. J'ai pas une seule de mes copines qui ne rêve pas d'être queen. Après deux, trois agressions, tu deviens moins fan des garçons. Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'écris en inclusif, je mets plus de soutif. Je crois que je me radicalise. Je m'épile plus sous les bras, je fais des soirées flinta. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je baisse plus comme avant, je demande le consentement. Je crois que je me radicalise. Je dessine des vulves partout, je gère le barbecue. Pourquoi donner ton avis sur mon corps? Je m'aime comme je suis. Tu me dis que je suis moche, mais t'es qu'éblou sur mes brioches.
Ouais,
j'en ai trop marre des médecins qui me disent que tout va bien. Alors je me tape la taxe rose en plus de l'endométriose. Ralâche à être docile, j'ai le droit d'être difficile. Je veux déconstruire toute la planète. Devant un port libidineux. Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'écris en inclusif, je mets plus de soutif. Je crois que je me radicalise. Je m'épile plus sous les bras, je fais des soirées flinta. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je baisse plus comme avant, je demande le consentement. Je crois que je me radicalise. Je dessine des vulves partout, je gère le barbecue. Regarde cette marque sur mon épaule. Connard qui a perdu le contrôle. Femme battue, femme marquée. Ma cicatrice me fait crier. Nous sommes fortes, nous sommes fières. Et féministes et radicales et en colère. Nous sommes fortes, nous sommes fières. Et féministes et radicales et en colère. Nous sommes fortes, nous sommes fières. Et féministes et radicales et en colère. Nous sommes fortes, nous sommes fières. Et féministes et radicales et en colère. Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'écris en inclusif, je mets plus de soutif. Je crois que je me radicalise. Je m'épile plus sous les bras, je fais des soirées flinta. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je baisse plus comme avant, je demande le consentement. Je crois que je me radicalise. Je dessine des vulves partout, je gère le barbecue.
Alors je suis végétarienne.
Ralâche à t'être docile, j'ai le droit d'être. Je veux déconstruire toute la planète à coups de punchline.